Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à tous. Alors, ce cantique que nous venons de chanter, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Affirmativement, le Seigneur est ici, hein, puisqu'il en a fait la promesse, que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Il est là pour secourir, il est là pour te consoler, pour te guérir, à une condition, si tu crois sa parole, eh bien Dieu est là. C'est une démarche tout simplement de foi. Alors c'est tout à fait approprié, j'aimerais justement lire quelque chose qui nous parle de consolation, nous parle de guérison, et nous amène, eh bien, tout simplement, prendre en considération les possibilités infinies qu'il y a, que nous offre la foi en Dieu. Et nous allons lire un premier passage, nous recourrons à d'autres textes dans la Bible, mais en tous les cas, le premier, c'est dans le livre des psaumes, le psaume 81, et nous allons lire le verset 7. Voilà, le psaume 81, verset 7. À partir du verset 7, voilà, tout le monde a trouvé, c'est facile, le livre des psaumes, c'est exactement au milieu de votre Bible. En principe, on devrait pouvoir se référencer justement sur cette situation visuelle. Alors, juste avant le verset 7, il est dit ceci, « J'entends une voix qui m'est inconnue, et je poursuis, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. » Alors ce texte, c'est un poète, naturellement d'Israël, très ancien, il s'appelle Asaph. Et il exprime tout simplement, eh bien, en effet, ce que peut ressentir un homme, ce que peut ressentir les hommes, ce que peut ressentir un peuple quand il traverse des moments difficiles, et particulièrement quand il est opprimé, quand il est dans la servitude. D'ailleurs, le texte nous le montre, hein, le verset 16 nous dit « J'ai déchargé son épaule du fardeau ». Et c'est vrai que la proposition qui nous est faite, et souvent pour beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, eh bien, ils peuvent s'exprimer de cette manière, j'entends une voix inconnue. Et quand Dieu parle, souvent la voix de Dieu n'est pas forcément reconnue, ou elle n'est pas, ou elle est souvent méconnue plutôt. Et on est confondu parce que Dieu parle au plus profond de nous-mêmes, il ne crie pas. Il n'est pas là avec des expressions fracassantes pour nous faire trembler ou nous faire peur, mais il parle. Ouais. Il parle, il ne cesse de parler, et je dirais qu'il s'adresse particulièrement à ceux qui sont souffrants, malheureux, qui sont opprimés, qui sont dans des situations de difficulté et devant des situations, lesquelles situations ils ne voient pas d'issue. D'ailleurs, à ce titre, dans l'évangile de Luc, si ma mémoire est fidèle, quand Jésus donnera la primeur de son message, il dira ceci, « Mais je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Je suis venu donner la liberté à ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont dans l'oppression, ceux qui sont sous la domination, alors quelle que soit la domination, naturellement, quelles que soient les forces, connues ou inconnues, humaines, et peut-être même des forces, quand il s'agit d'oppression, des forces invisibles qui sont là, eh bien, à faire un travail de destruction et d'anéantissement des personnes humaines. Alors, j'entends une voix inconnue, j'ai déchargé, et cette voix dit, j'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. C'est toute une signification que nous retrouvons d'ici quelques instants, à travers le fait que ce peuple d'Israël a connu pendant des années, voire des siècles, une oppression lorsqu'il a été déporté ou il s'est déporté lui-même en Égypte, et que sa situation privilégiée du début s'est tournée en esclavage et en servitude inimaginable, innommable. Alors on lira tout à l'heure le texte. Et Dieu dit, bien voilà, la preuve, c'est que ce que j'ai fait pour le peuple d'Israël, ce que vous êtes devenus, vous les Juifs, eh bien c'est que je l'ai déjà fait pour vos pères. Et je me suis manifesté pour vous faire sortir du joug impossible de Pharaon qui vous écrasait, qui, eh bien, vous avait réduit tout simplement un peuple qu'il avait réduit en esclaves, en bêtes de somme. Et ses mains ont lâché la corbeille. Parce que il faut bien s'imaginer que à ce moment-là, quand il y avait le creusement des canaux d'Égypte qui ont fait la fortune ou la renommée de l'Égypte, le Nil qui était le fleuve nourricier naturellement, mais on avait irrigué un peu tout le pays sur les alentours du Nil, alors les pauvres hommes qui étaient chargés, les peuples qui étaient asservis, eh bien ils creusaient soit avec leurs mains, et puis ils creusaient, et puis ils emmenaient la terre avec des corbeilles. Imaginez-vous le travail. Aujourd'hui, eh bien, hein, on a des engins naturellement appropriés, ce sont des tonnes que l'on remue, et dans un délai qui est assez court, mais à ce moment-là, c'était... Mais ça se fait encore, hein, dans certains pays défavorisés, le tiers-monde par exemple, quand on a quelquefois des reportages sur les Indes où on fait travailler les enfants, c'est quelque chose d'affreux, mais ça c'est une servitude. Alors, cette question, elle est de tous les temps, et elle est encore actuellement, malheureusement, elle est actuellement dans notre monde du XXIe siècle. Ses mains ont lâché la corbeille. Alors tu as crié dans la détresse, dit Dieu, et je t'ai délivré. Ça c'était ce que les Israélites pouvaient constater, que Dieu les avait délivrés. À bras étendus, avec puissance, Pharaon avait été anéanti, n'avait pas pu retenir ce peuple d'esclaves. Et nous voyons que c'était la naissance d'une nation naturellement libre. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, j'ai éprouvé près de toi, près des eaux de Meriba. Alors, c'est toute une histoire tout ça. J'aimerais justement lui donner un sens en utilisant des images bibliques. C'est simple. Et j'aimerais justement revenir un petit peu sur ce propos que Israël est le peuple de Dieu, le peuple élu. Et c'est un peuple qui, avant de connaître ce qu'il a pu connaître de délivrance, c'est en effet une bénédiction sans égale dans bien des domaines, était un peuple qui a été écrasé, un peuple qui a été, on peut dire, piétiné, roué. Et c'était comme ça, tout simplement. Hein, hélas, ce peuple, à travers toute l'histoire, toute son histoire, a eu plusieurs fois des épisodes comme ça, hein, jusque dans notre XXe siècle. Hein. Mais il n'y a pas que ce peuple. Hein. Il y a bien des nations, il y a bien des peuples qui aujourd'hui sont véritablement roulés dans la poussière. C'est comme ça, tout simplement, c'est terrible. C'est une injustice affreuse. Voilà, on peut pas dire autrement. Et j'aimerais justement lire un autre texte maintenant, qui va illustrer un petit peu tout ça, et on va donner un développement à cette histoire dans le livre de l'Exode. Alors l'Exode, c'est le livre qui nous parle de la libération des Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Hein, la mer Rouge, par exemple, ça commence par la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, etc., etc. Mais avant, justement, tout cela, alors qu'ils étaient dans la servitude la plus abominable, eh bien voilà, Moïse a été envoyé par Dieu pour dire au peuple que maintenant, eh bien, il allait être affranchi. Après 430 ans de servitude, imaginez-vous ce que ça représente. 430 ans, ça nous envoie à peu près, là, aujourd'hui, si je compte très vite, ça nous ramènerait à Henri IV. Hein. Il s'en est passé des choses depuis. Hein. Mais imaginez-vous, une servitude aussi longue. Et Moïse avait été envoyé, il avait reçu cette parole dans le buisson ardent, hein, je rappelle un petit peu pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la Bible, eh bien finalement ce qui s'est passé, et Dieu lui a dit maintenant, Moïse, je t'ai choisi, et tu vas aller faire Pharaon, et tu vas dire à Pharaon, tu laisses aller mon peuple, tu lui donnes la liberté, tu l'affranchis parce que c'est mon peuple, et moi je veux en faire un peuple qui m'adore. Alors Pharaon était pas d'accord, hein, parce que il y avait à peu près 2 millions de personnes, de juifs, esclaves en Égypte, hein. Ce qui représentait quand même une nation, hein, parce que bon, à l'époque surtout, dans la population de ces temps, et nous voyons qu'il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, etc. Tout le monde travaillait, hein, c'était réduit donc à la servitude, et Pharaon l'a vu d'un très mauvais œil, parce que imaginez-vous cette main d'œuvre gratuite, hein, malléable et corvéable à merci, Elle allait partir. Alors, je vois pas vraiment pourquoi l'employeur qui s'appelait Pharaon allait les laisser partir comme ça, parce que un dénommé Moïse arrivait au palais en disant maintenant, ça y est, c'est terminé, voilà, Dieu m'a dit qu'il fallait que tu libères ce peuple. Alors, ce qui s'est passé, ça fait exactement l'effet contraire. Pharaon, quand il a entendu ça, il a dit, vous allez voir. Ils veulent partir? Eh bien, moi, je vais les laminer, je vais les réduire encore à une misère qui sera encore plus terrible que ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Alors, on va lire un peu le texte. Il nous est dit, par exemple, dans Exode chapitre 5 et au verset 5, voilà, je vous laisse à peine le temps de tourner les pages de votre Bible. Enfin, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de pages dans la Bible. Mais bon, quand même. Alors, voilà, donc, Exode 5, verset 5. Pharaon, après avoir entendu Moïse qui lui demandait la libération des Hébreux, dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. » Ça, c'était une réponse à la question, Moïse, qui demandait que ce peuple, eh bien, soit libéré. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires, « Vous ne donnerez plus maintenant, comme auparavant, de paille au peuple pour faire des briques, parce qu'on faisait des briques, un mélange d'argile et de paille. Hein, voilà. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille, vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retracherez rien, car ce sont des paresseux. » Voilà le verdict. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront pas garde à leurs paroles, à des paroles de mensonge. » Les inspecteurs du peuple et les commissaires virent dire au peuple, eh bien voilà, Pharaon nous a ordonné de faire ceci et cela, et vous allez le faire. Et vous allez le faire, eh bien là, avec des mesures de rétorsion terribles, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, ça va être quelque chose d'épouvantable. On va vous rendre la vie infecte, et vous allez en mourir, parce qu'ils devaient aller chercher la paille, avant elle leur arrivait déjà toute prête, mais en plus, il fallait faire la même quantité de briques. C'était quelque chose d'affreux, c'était une situation impossible. Voilà, c'était nous pourrions dire, comme quelquefois on le voit dans certaines situations sociales, où les hommes qui sont à travailler sont tellement pressés que ben ils n'arrivent plus à faire les choses, et sous menace d'être licenciés et tout ça. Enfin, ça c'est des choses que vous connaissez aussi bien que moi. Alors, donc un peu plus loin, les commissaires au verset 19, par exemple, je ne vais pas lire tout, mais les commissaires des enfants d'Israël, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient préposés à surveiller leurs propres fers, et ils servaient aussi, ils étaient là au service de Pharaon, donc c'était en quelque sorte ce qu'on a appelé dans les camps de concentration les capots, vous savez. Hein, c'était des juifs, mais ils étaient obligés de marcher pour avoir quelques faveurs et avoir peut-être un petit peu la vie plus douce pour eux. Comprenez, ils avaient quelques faveurs. Alors les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour, la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient et leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel, il pria et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi as-tu envoyé, nous as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as point délivré ce peuple. Ça, c'est la confusion, parce que Dieu a dit, je vous délivrerai. Et voilà que, dans cette démarche qui était une démarche de liberté, le mal augmente. Ça, ce sont des choses que nous avons du mal à comprendre. Parce qu'on prie Dieu, on crie Dieu, et il semblerait que quelquefois il n'ait pas entendu, et que c'est la situation contraire qui nous atteint. Ils savaient plus où ils en étaient. Et Moïse, qui dit, mais tu m'as bien envoyé, tu m'as bien dit, tu m'as donné un message. Pour que, véritablement, eh bien, on donne de l'espérance à ce peuple. Et là, ils sont désespérés, puisque Pharaon et tous ses serviteurs sont en train de les presser encore 10 fois plus qu'auparavant. C'était terrible, hein. Des hommes, des femmes mouraient, des enfants mouraient, c'était quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite lecture que nous avons faite au départ. C'est Dieu qui les a délivrés, mais pas comme ils l'entendaient, pas comme ils le pensaient. Et je voudrais dire que quand on est dans cette situation d'oppression, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure, quelquefois nous nous faisons des idées préconçues, nous disons « mais ça doit être comme ça que ça va se passer, c'est ceci, cela ». Nous nous faisons un programme, et puis on s'aperçoit que ce programme, eh bien, il ne tient absolument pas à ce que nous avons pensé, mais Dieu a une porte de sortie, où là, eh bien, les choses vont être encore beaucoup plus glorieuses que si nous nous délivrions nous-mêmes, et selon nos pensées. Et on sait maintenant l'histoire, parce que la Bible nous rapporte, hein, dans ses chroniques, tout ce qui s'est passé. On s'aperçoit que l'Égypte s'est effondrée à ce moment-là, ou presque. L'armée de Pharaon a été complètement anéantie. Pharaon a été rendu impuissant. Il a perdu sa propre famille. Et puis, on sait très bien que ça a été quelque chose de terrible, parce que tous ces gens qui s'en étaient pris au peuple de Dieu, impunément, ont été véritablement dans une situation terrible, hein, sous le jugement de Dieu. Ils faisaient le mal, ils exploitaient les choses. Alors, c'est ce que nous explique finalement le livre. J'ai déchargé de leurs épaules la corbeille. Et faut savoir ce qu'il y a dans la corbeille. Et vous savez, quand on regarde et quand on prend en considération notre monde d'aujourd'hui, je voudrais simplement vous dire, et j'ose le dire, que quelque part sur le plan humain, de la vie des gens, bien que nous soyons dans une société où il y a des moyens, alors c'est sûr que c'est pas le même monde qu'il y a 2 siècles, c'est pas le même monde qu'il y a 2000 ans, ou qu'il y a 4000 ans, là, du temps de Moïse, hein, c'est certainement différent dans les conditions de vie. Mais on s'aperçoit que, peut-être si pour l'homme d'aujourd'hui, l'homme moderne, les conditions extérieures ont été améliorées considérablement, et c'est une bonne chose. On s'aperçoit qu'en ce qui concerne l'intérieur, les angoisses, les détresses, à travers ces états de dépression jusqu'à vouloir mourir, puisque on sait très bien que l'on ne donne pas le chiffre exact de suicidés par an, c'est quand même quelque chose qui montre que les gens sont sous une oppression et sous une domination qui devient insupportable. Et dans tous les domaines, que ce soit dans le monde social, que ce soit dans le monde familial, et à travers toutes sortes de déchirures, toutes sortes de pressions, la crainte de vivre, la crainte de mourir, la crainte d'être malade, la crainte de ne plus avoir, de manquer, et de ceci et cela. L'homme reste semblable à lui-même, c'est un esclave. Je voudrais le dire, par-delà même ses proclamations de liberté. Et on le sait très bien, puisque les pouvoirs publics luttent, c'est vrai, contre toutes ces dépendances. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour constater, ce sont des états de fait dont je ne suis pas le seul, les sociologues, les médecins, etc. Mais cette dépendance ou ces addictions à ces pharaons invisibles ou à ces égyptiens hein, tyranniques que peuvent représenter l'alcool, la drogue, le tabac ou autre chose, hein. Il y a bien d'autres choses, hein. Pour d'autres, ça sera certainement, ça se positionnera sur... Mais on s'aperçoit que dans cette corbeille, il y a tout ça, vous comprenez. Et malgré les avancées en conditions de vie, en amélioration de vie, en confort de vie, on s'aperçoit que malgré cela, combien il y a de gens qui sont profondément malheureux. On est un petit peu dans ce monde comme en Égypte. Voilà. C'est pas les mêmes conditions comme cela nous est décrit, mais à l'intérieur, les gens crient, les gens soupirent. Les gens sont désespérés. Les gens sont aux prises avec le désarroi, avec le désespoir, avec toutes sortes de choses. Et on comprend que, dans une certaine mesure, ils essaient de fuir. Ils essaient de fuir. Et c'est affreux. Parce que c'est comme s'il y avait, en prenant certaines substances, eh bien, comme une échappatoire à nos problèmes récurrents et à nos problèmes dominants et à nos problèmes qui, quelque part, sont tellement lourds à porter que nous ne pouvons plus les vivre. On ne peut pas les dominer, on ne peut pas les supporter. Ils nous écrasent. C'est pour ça que Dieu dit, et j'aime bien ce texte du psaume 81, où Dieu dit « J'ai entendu une voix inconnue ». Et elle voit, cette voix répond et parle au cœur et aux consciences, aux âmes, « Mais j'ai déchargé son épaule de ses fardeaux ». Alors il y a un moyen pour cela. On l'a chanté tout à l'heure à travers ce beau cantique « Dieu est là ». Oui. Il est là pour te consoler, il est là pour te guérir, il est là pour te soulager, il est là pour... Si tu crois à sa parole, mais seulement si tu crois à sa parole, il est là. Il n'est pas là pour ceux qui ne croient pas, mais il est là pour ceux qui croient, pour ceux qui font foi, pour ceux qui ont confiance. Alors, comment, combien de temps encore dans ces souffrances? Et comment faire? Comment atteindre cette délivrance et ce soulagement, cet apaisement? On n'a jamais parlé autant de paix alors que le monde se prépare à la guerre. Mais la guerre, elle n'est pas avec des canons ou avec des armes chimiques comme nous entendons aujourd'hui parler chaque minute, parce que ça s'accélère. Attendons encore un peu, on verra, on va voir le résultat, hein. Mais toujours est-il que la guerre allait déjà dans le cœur des âmes. Parce que quelqu'un qui a la guerre à l'intérieur de lui-même ne peut que générer la guerre. Un homme de paix amène la paix. C'est pas possible. On ne peut donner que le fruit. L'arbre ne peut donner que le fruit qu'il porte. Si l'arbre est mauvais, nous dit Jésus, eh bien, le fruit sera mauvais. Et puis, inversement, naturellement, délivrance et soulagement. Nous avons cette belle parole, et moi je voudrais laisser parler Jésus maintenant. Quand il nous dit ceci, alors, c'est un texte des plus connus de la Bible, parce que vous voyez à quoi je fais référence. Mais dans Matthieu chapitre 11 et au verset 28, Jésus dira, proclamera, lorsqu'il fera son entrée dans ce monde, pour avertir d'abord en priorité le peuple d'Israël, mais tous les hommes, puisque c'est venu jusqu'à nous, il dira ces paroles, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dont la corbeille est trop lourde, dont les chaînes sont... si invalidante, dont les liens sont tellement ténus que vous ne pouvez pas vous en défaire. » Jésus savait, il connaissait la misère de son peuple, il connaissait la misère des hommes de son temps, et il parlera de cette manière, « Mais venez à moi, pas un autre, à l'exclusion de tout autre, c'est moi qui suis la réponse. » Comme nous le chantons souvent, il est la réponse à tous nos pourquoi. Il est la réponse à tous nos besoins. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dans la mesure où vous vous reconnaissez dans la fatigue, dans les charges qui vous écrasent et dans cet abrutissement de la vie qui rend fou. C'est une parole ciblée. C'est une parole qui a son sens. Et Jésus savait très bien, puisque lorsqu'il viendra sur les monts de Galilée et qu'il donnera ce fameux sermon sur la montagne, il dira, mais... Il nous a dit qu'il a été ému de compassion de voir ce peuple d'Israël, ces petites gens des campagnes, des villes, ces malheureux qui étaient écrasés par sous la botte de l'Empire romain à ce moment-là, l'Empire régnait en Palestine. Et il dira, mais Jésus ému de compassion en voyant ce peuple, et il dira, mais c'est un peuple qui se meurt, c'est un peuple qui n'a pas de repos, c'est un peuple qui n'est pas dans la paix, parce qu'il n'a plus de berger. Et Jésus se présente comme le berger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il nous fait cette promesse, mais je vous donnerai le repos. C'est la même parole que vous trouvez dans le texte que nous avons lu à l'origine. Je déchargerai cette voix inconnue, je déchargerai ces épaules du fardeau. Venez à moi, je vous donnerai le repos. Mais il y a toujours naturellement une attention à porter à celui qui parle, même si c'est une voix inconnue pour certains. Est-ce que la voix de Jésus est reconnue? Est-ce qu'elle est connue? Pourtant, nous sommes dans une civilisation, une culture chrétienne. Oh, il y a longtemps qu'on a mis Jésus dehors, hein, qu'on l'a mis derrière et bien en arrière. Ça, c'est sûr. Il nous est dit qu'il y a à peu près 8% des Français qui lisent la Bible, qui connaissent la Bible. Je peux vous dire, hein. C'est pour vous dire que dans une société chrétienne, ça va pas loin, hein. Je peux vous dire que l'islam, ils font mieux, hein. Pas avec la Bible. Naturellement. Mais toujours est-il que, et en plus, c'est des redites, hein, dans l'islam. Ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ouais. Jésus nous a dit ne multipliez pas de vaines paroles parce que ça ne sert à rien. Donc on a compris qu'il fallait lire une fois, bien lire, comprendre, croire, et ça suffisait, hein. Et l'intégrer naturellement au fond de notre cœur. Pas cérébralement, mais au fond de notre cœur. Et il dira ceci, mais prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. C'est paradoxal parce qu'un joug a toujours été pareil et a été présenté comme un instrument de servilité, d'esclavage. Or, c'est le contraire, c'est une mauvaise compréhension du mot joug en français, parce qu'un joug, c'est attacher deux bêtes de somme pour que la charge soit partagée, pour que ça ne soit pas la charge sur l'un, mais que ce soit la charge sur d'autres. Quand on porte un fardeau à deux, c'est moins lourd que de le porter tout seul. C'est pour ça que Jésus emploie le mot joug, et nous l'avons considéré, souvent dans notre compréhension, comme quelque chose d'avilissant et d'asservissement, et quelque chose qui était... beaucoup plus compliqué. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus nous parle. Car je suis doux et humble de cœur. Parce que vous savez, Jésus, il n'est pas venu apporter une loi qui serait encore plus terrible que la loi des hommes. Une loi de commandement impossible à, tout simplement, à vivre. Non. Il nous est dit qu'il est doux et humble de cœur, c'est-à-dire qu'il est dans son caractère, dans ce qu'il est lui-même, sa propre personnalité de douceur et d'humilité. Il n'est pas un tyran, parce que tous les tyrans sont orgueilleux, tous les tyrans et tous les despotes sont là Il faut se plier à faire leur volonté, ou alors on disparaît naturellement. Hein. Et ils se chargent bien de faire disparaître, ça c'est sûr. Et Jésus nous dit, doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est ça justement, c'est ce que nous avons lu. Hein. Cette belle parole, j'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille, parce qu'à un moment donné, quand on se sent libéré, eh, ça y est, c'est bon. On est détaché de ce qui nous retient, de nos prisons sans barreaux, et de nos prisons sans porte de fer. Parce que Jésus a fait voler tout ça en éclats, il parle bien quand même. Il est bien question dans notre réflexion ce soir de prison intérieure. Il nous est dit d'ailleurs, Jésus le dira dans l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 36, il dira ceci, mais quiconque se livre au mal, se livre au péché, eh bien est esclave de ce qui a dominé sur lui. Et il y a des gens qui disent, moi je suis libre. C'est vrai que, en apparence, il a un passeport, il a une carte d'identité, il peut passer dans différents pays, d'un pays à l'autre, il est libre! Ce qui n'est pas le cas de tous les peuples. Il est libre, c'est vrai, mais ce serait peut-être à vérifier s'il n'est pas lui-même asservi par des choses secrètes ou des choses cachées, invisibles à l'intérieur de lui-même, qui fait de lui un esclave. Ça, c'est autre chose, c'est ce que Jésus veut dire d'ailleurs. Alors, il y a une loi qui est dans l'esprit que Jésus nous dit, dans l'humilité et la douceur. C'est une loi qui est contraire, enfin, qui est dans son esprit, qui est à l'inverse des lois humaines. Parce que vous savez ce que c'est, hein, les lois, hein. Le monsieur avec le képi et les sifflets, enfin, maintenant ils ont autre chose. Mais toujours est-il que, hein, vous savez ce que c'est. Ça vous est jamais arrivé, naturellement, parce que vous êtes sage. Mais toujours est-il que quand on y passe, ça fait un drôle d'effet, hein. Alors ça, c'est la loi, parce que vous pouvez toujours expliquer n'importe quoi. Monsieur le gendarme, vous savez, je me suis trompé entre le rouge et le vert. Vous allez pouvoir lui expliquer, vous allez voir un peu ce qu'il va vous dire. Hein. Il va vous envoyer chez l'ophtalmo. Mais toujours est-il que la loi, c'est la loi, tout simplement. Mais la loi de Christ, c'est autre chose. C'est une loi d'amour, c'est une loi de grâce. Voilà. Parce qu'on n'a jamais gagné, on n'a jamais conquis des âmes pour Dieu et pour dans n'importe quoi, en les brutalisant, en les rudoyant. Au contraire, ça amène la révolte et ça amène des contrées, vous comprenez ? Mais Jésus a pris les choses dans le contresens. À ceux qui lui faisaient du mal, il leur a dit « Je vous aime ». Ils étaient complètement assis sur les genoux. Enfin, je ne sais pas si on peut s'asseoir sur les genoux, mais toujours est-il qu'ils ne pouvaient pas arriver à avancer. Hein. Ça, c'est certain. Ben oui, c'est ça. Hein. Regardez les armées romaines qui ont vaincu en son temps le peuple d'Israël et puis toutes les nations. Hein. L'aigle impérial de Rome, je peux vous dire qu'il ne faisait pas de cadeaux. Hein. Et pourtant, on l'a appelé la Pax Romania, c'est-à-dire que c'était véritablement, normalement, pour pacifier. Mais avant de pacifier, ils détruisaient, hein. Ça, c'est sûr. Mais Jésus a eu un discours tout à fait contraire à toutes les lois de son temps, y compris l'Empire romain, parce que là, c'était véritablement, la sanction et jusqu'à la crucifixion, parce que ça, c'était commun, hein. Et pas n'importe quelle mort, hein. La mort qui fait le plus souffrir. Et Jésus a dit, mais non, vous êtes en train de faire une fausse route. C'est pas en haïssant que vous allez gagner, que vous allez conquérir le monde, mais c'est en aimant. Et Jésus nous a donné cette loi qu'on en appelle l'évangile. Et tous ceux qui l'ont reçu dans leur cœur, eh bien, c'est très bien ce que ça veut dire. Alors il y a un acte de la loi libératrice. C'est ce que nous dit Pierre, par exemple. Pierre nous dit une chose. C'est vrai que ça semble, quand on le lit, comme on se dit, c'est bizarre parce que dans le contexte, je vois pas ce que ça vient faire. Parce que il est dit ceci, Pierre chapitre 5 et verset 7, il est dit ceci, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous avez lu ?« Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est curieux parce que ça se trouve dans un contexte où il est dit avant, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Oh. Ça, c'est un appel à la souplesse, à la flexibilité et à véritablement sortir de notre orgueil. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, de nous décharger. Qu'est-ce que ça veut dire, se décharger? C'est un mot qui est assez particulier, que l'on peut l'employer. On peut l'employer sous différentes formes, dans différents contextes. Je peux faire une décharge à la police, par exemple. C'est se décharger. Je peux, en effet, me libérer de quelque chose, je me décharge. Je ne prends pas acte où je ne prends pas parti, je me décharge. Voilà. Et puis, des gens qui sont au travail avec un travail pénible, eh bien, ils vont, voilà, ça c'est un sens, c'est le sens commun naturellement. Mais se décharger, ça a aussi le sens de déposer, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de déposer tout ce qui est trop lourd à l'intérieur de nous-mêmes, nos peines, nos pleurs, nos fardeaux, tout ce qui peut nous détruire et qui nous détruit, qui ronge, qui mange notre vie, jour et nuit. Alors je me décharge, mes angoisses, mes peurs, mes craintes, je les décharge. Et je voudrais vous dire que sur le plan moral ou sur le plan spirituel, le monde n'offre pas des quais de déchargement. Hein. Peut-être le psychiatre, le psychologue, le médecin, le prêtre, le pasteur. Je ne veux pas me comparer à un quai de déchargement quand même. Mais toujours est-il que, quelque part, c'est se vider. Et c'est déposer, c'est surtout, écoutez bien, c'est abandonner. Parce qu'à partir du moment où je viens, je laisse les choses, je ne m'en occupe plus parce que je les ai confiées à quelqu'un qui est plus grand et plus fort que moi et qui va s'en occuper. Quand nous avons affaire à la justice et que nous allons chercher un avocat, nous lui donnons notre dossier. C'est à lui, c'est un professionnel, il va traiter le problème, il va savoir traiter le problème. Et à ce moment-là, je lui ai donné mon dossier. Je vais quand même pas, 2 heures après, lui téléphoner en disant, écoutez, vous pourrez me donner mon dossier parce que je suis pas tout à fait sûr. Vous lui avez laissé votre dossier, vous lui faites confiance jusqu'au moment où il va instruire l'affaire et il va pouvoir la préparer et il va pouvoir aller après vous défendre en justice. Ça peut durer des mois et des années même peut-être, mais vous vous en occupez plus, vous avez peut-être la pensée, vous en souvenez naturellement, peut-être avec une certaine inquiétude en savoir comment ça va se passer. Mais néanmoins, vous vous êtes déchargé sur lui. Vous êtes déchargé sur un tiers, sur quelqu'un d'autre que vous savez être un homme compétent, un homme capable de vous défendre. Vous vous êtes déchargé. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Pour tous nos problèmes qui nous ruinent dans notre intérieur, nous savons que nous avons quelqu'un, un avocat, comme nous dit l'apôtre Jean, qui lui va plaider pour nous. Et à ce moment-là, eh bien, vous lui faites confiance. Et en plus, c'est gratuit avec le Seigneur. Je tiens à vous le dire. Ouais. Mais vous vous êtes déchargé. Regardez. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Quelle est la nature de notre acte de décharge? Vous l'avez deviné? C'est la prière. Ah, ça change un peu, hein. Ça change de monsieur l'avocat, hein, de maître. Non, c'est la prière de la foi, où nous pouvons tout dire à Dieu parce qu'il n'y a pas de tabou. Notre histoire, notre vie passée, nos erreurs, tout ça nous pouvons lui dire, avec cette confiance qu'il ne nous jugera pas puisqu'il est venu pour nous défendre. Déchargez-vous sur lui. Nous pouvons traverser des moments terribles dans notre vie, d'une manière ou d'une autre, des choses qui sont des souffles dévastateurs dans notre existence. Et quelquefois, ça nous met tellement en peine que nous ne savons pas vers qui nous tourner. Et nous cherchons désespérément des moyens. Nous cherchons où nous pouvons trouver des solutions par nous-mêmes et nous nous épuisons. Nous nous rendons encore plus malades parce que nous sommes seuls. Ou tous ceux que nous avons recouru, auxquels nous avons recouru, ne sont pas capables et peut-être nous ont laissé tomber. Mais avec Jésus, c'est pas ça. Hein. Lui, il est toujours là, il est toujours présent. Et il est là pour nous donner, finalement, eh bien, le secours dont nous avons besoin. Dans cette corbeille écrasante, puisque je reviens à notre première pensée, nous avons parlé de la fatigue, nous avons parlé du stress. Nous pouvons parler du surmenage de notre monde, de notre temps, des soucis, des tracas, des inquiétudes, où Jésus nous dira d'une manière tellement belle dans le sermon sur la montagne de ne nous inquiéter de rien. On pourrait lui répondre, c'est bien gentil que tu nous dises ça, mais si tu étais à ma place, tu verrais comment on fait pour ne pas s'inquiéter. Et pourtant Jésus nous dit, votre Père sait, il sait, et ça doit vous suffire si vous lui faites confiance, parce que lui, il est plus grand que vous, et il connaît les tenants et les aboutissements de toutes choses, et il est en pleine capacité de vous affranchir de cette inquiétude qui vous ronge, parce que l'inquiétude, c'est un autre mal qui vient s'ajouter déjà au mal et aux soucis que l'on a. C'est pas la peine, un, ça suffit. Mais parce que je m'inquiète, j'ajoute encore un mal supplémentaire. Et c'est pas parce qu'on va s'inquiéter que ça va changer quelque chose. Au contraire, ça va compliquer la situation. Nos peurs, la maladie, dans cette corbeille, il y a l'angoisse, il y a l'anxiété, la détresse, le ressentiment, par exemple, pour certains, la haine. On n'aime pas quelqu'un. Alors on ressasse. Et on se fait tout un tout un cinéma, on se fait toute une chose, et on est prêt à épiloguer sur des choses qui sont insoupçonnées, ou des choses que l'on va inventer sur la personne parce qu'on ne l'aime pas, parce que finalement, ce défaut d'affection, de sympathie ou d'empathie va développer en nous quelque chose, un véritable poison, et c'est pas celui que l'on n'aime pas qui va en être, il sera peut-être la victime, mais c'est nous la victime, parce que nous détruisons notre vie, c'est comme un cancer ou une gangrène. Alors, le ressentiment, la haine, les mauvaises habitudes, l'esclavage moral, les obsessions et toutes sortes de choses. Alors, il faut apprendre à se décharger. Apprendre, c'est pas simple, hein. Et pour apprendre, Jésus nous dit, mais recevez mes instructions, écoutez mes paroles. La Bible, depuis 2000 ans, a toujours été le livre, non seulement d'un livre de consolation et d'espérance, et c'est un livre que des millions et des millions de gens à travers les siècles, à travers les sociétés et les civilisations ont trouvé pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. Ils y ont trouvé Jésus. Parce que nous prêchons un Christ dont le monde religieux représente sous une croix, et il est toujours sur une croix, et particulièrement dans les cimetières, ce qui n'est pas très enthousiasmant. Mais nous croyons que Jésus n'est plus sur la croix. Il est descendu de la croix et il est ressuscité, et c'est ce qui fait la force de notre foi. C'est ça la grande différence. Et je peux venir pour me décharger auprès de quelqu'un qui est invisible. Je ne le vois pas, mais je le connais. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, mais Dieu est là. Il est là. Si tu crois, mais Dieu est là. C'est ça la force de l'évangile. C'est ça la puissance que Dieu nous donne. Alors déposez son fardeau. Je termine par une histoire à entendre et à réentendre. Vous aimez les histoires, hein? Alors, vous la connaissez peut-être, mais bon, on peut la raconter quand même. À votre avis, quelle est la meilleure manière de porter les fardeaux? Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a des coachs en entreprise qui vous disent, pour ceux qui travaillent à porter des fardeaux, faut se baisser, faut faire des choses avec votre dos, parce que autrement, vous allez vous casser le dos, hein, vous allez prématurément, eh bien, vous endommager, et on vous donne des conseils. Remarquez, ils sont sages, ces conseils, hein. Voilà. Mais la meilleure façon de porter les fardeaux, c'est l'histoire d'un homme qui était aux prises avec de grandes difficultés. C'était un homme qui se tourmentait parce que il était soucieux, il était père de famille. Et il se disait, mais comment vais-je faire? Comment vais-je m'en sortir? Il avait certainement des soucis qui lui étaient propres et il était soucieux de grandes choses. Et très souvent, cet homme était découragé. Il se démoralisait parce que tous les efforts étaient des efforts vains et pourtant, pensons et croyons que cet homme était un homme avec de belles qualités, avec de bonnes intentions, de bonnes motivations pour sa vie et celle de sa famille. Mais il passait par des découragements. Et quand il passait par des découragements, il s'apitoyait sur lui-même. Et il disait, comme dans le psaume un peu plus loin, « Qu'est-ce que je suis malheureux ? Je suis tellement malheureux !» Alors si vous entendez ça, plus vous direz que vous êtes malheureux, plus vous serez malheureux, hein. Ça, c'est clair. Là, vous êtes en train de générer dans votre esprit, dans votre fort intérieur, quelque chose qui est profondément négatif. Alors, c'était un peu le cas de cet homme. Il était certainement très sincère, un brave homme, mais il lui manquait quelque chose. Et puis, après son travail, en rentrant un soir chez lui, probablement pour une fête ou un anniversaire, il était venu avec un gros paquet pour sa femme. Ça peut donner des idées peut-être aux messieurs, mais bon, je ne sais pas. Hein. Mais toujours est-il qu'il était venu avec un gros paquet, il voulait faire quelque chose pour son épouse. Et c'était une maison à deux étages. Et il s'est arrêté auprès de sa petite fille, sujet aussi certainement de son inquiétude, qui était paralysée dans un fauteuil. Un fauteuil roulant. Voilà. L'enfant était là, au rez-de-chaussée, la maman était en haut, et le papa rentre. Voilà, il voit sa petite fille dans cette... Il lui dit tout simplement, « Bonsoir ma chérie, où est maman ?» Et la petite fille va lui répondre, « Mais papa, maman est en haut. Elle est à l'étage, elle est dans les chambres, je ne sais pas, hein, elle est dans l'étage. » Et le père va dire à son enfant, il va lui dire, « Mais j'ai un paquet cadeau pour maman, et je vais lui apporter tout de suite, et je reviens te voir ma chérie. » Voilà, je reviens, je redescends. Et la petite fille a dit ceci, « Mais au papa, laisse-moi lui donner, s'il te plaît, ce cadeau. Laisse-moi le lui donner. » Et le père aussitôt de lui répondre, « Mais mon enfant, ma chérie, eh bien, tu sais bien que tu ne peux pas dans ton état. » Ah oui, évidemment, ça limite les choses. Tu ne peux pas aller là-haut. Naturellement, tu sais comment tu es. » C'est avec beaucoup de tristesse, certainement, que le papa a répondu cela. Alors l'enfant a été illuminée par un sourire. Elle était souriante à ce moment-là et elle a répondu à son père tout simplement, « C'est vrai, papa. Je suis dans cette prison. Mon corps est emprisonné. Je suis dans ce fauteuil. C'est pas des jambes, c'est des roues que j'ai. » Voilà. Naturellement, c'est vrai, c'est une réalité. Mais on va faire une chose, si tu veux bien. Tu me donnes le paquet, quand même, donne-moi-le, ça me ferait plaisir de l'offrir. C'est toi qui as été l'acheter, et moi j'aimerais bien le donner à maman. Alors, tu me donnes le paquet, et à ce moment-là, tu vas me porter vers maman, et c'est moi qui vais lui donner. Voilà, elle a eu une idée géniale. Alors le père, à ce moment-là, a porté sa petite fille dans ses bras. Il a monté les escaliers, naturellement. Elle avait la petite fille qui elle-même avait le paquet. Et ils sont arrivés à l'étage, avec devant la maman. Et c'est dans ce geste et dans cette parole, c'est alors que cet homme accablé par ses nombreux soucis, prisonnier, sa corbeille était pleine, on pourrait dire, a compris en un instant que c'était exactement la position qu'il devait prendre face à tous ses problèmes, en d'autres termes, non les porter lui-même, mais plutôt de se laisser porter par quelqu'un de plus grand et de plus fort que lui. Sa petite fille, handicapée, venait de lui donner la plus belle et la plus grande de toutes les leçons spirituelles et de foi. Et pour nous dire ceci, les uns et les autres, c'est que quand on ne peut plus ou qu'on ne peut pas, eh bien, à ce moment-là, il faut se laisser porter, il faut s'abandonner, même si on ne comprend pas. Il faut s'appuyer sur celui qui peut et qui veut faire à notre place. Et avant que nous comprenions ça, que de combat et de lutte. Parce que très souvent, plus on est malheureux, moins on veut lâcher. C'est terrible, c'est paradoxal, hein. On n'en peut plus. On maudit notre position, on se dit « mais quand est-ce que ça va finir ?» Et quelque part, il y a comme un mécanisme à l'intérieur où on s'endurcit, où quelquefois on peut devenir amer et aigre. Et là, ce que nous devons comprendre, c'est que ce que nous avons vu, ce que nous avons lu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est exactement cela. Jésus vient et leur dit « mais déchargez-vous sur vous, apportez vos fardeaux. Vous êtes fatigués, vous êtes lâchés, vous êtes chargés, vous n'en pouvez plus. » Lorsque le Seigneur porte nos fardeaux, il faut le comprendre. Lorsqu'il les porte à notre place parce que nous ne lui avons demandé, nous avons crié, nous avons pleuré, nous avons supplié pour qu'il nous délivre, alors à ce moment-là, lorsque le Seigneur porte nos fardeaux à notre place, je voudrais vous dire, nous n'en sentons plus le poids ni la douleur. C'est ça la délivrance de Dieu. C'est ça la délivrance. On a parlé du peuple d'Israël tout à l'heure. On a parlé des paroles de Jésus. Ce que nous dit l'Écriture sainte à travers cette lettre de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Alors j'entends une voix qui m'est inconnue. Elle ne vous est plus inconnue, elle ne nous est pas inconnue maintenant. Même pour la première fois qu'on entend l'Évangile, quand on l'a entendu cet Évangile. C'est un appel de Dieu, c'est une sollicitation. Et chacun peut répondre en jugeant de sa propre vie, de sa propre misère, de ses propres fardeaux, en disant « mais peut-être aujourd'hui, cette bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle m'est parvenue parce que je crois qu'il y a quelque chose de formidable pour moi et je veux le saisir, je veux le vivre. Alors j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé, répond Dieu, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans ta détresse. » Ce que nous ne manquons pas de faire. Il faut crier à la bonne personne. Il faut crier dans la bonne direction, naturellement. Et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Meriba. Les eaux de Meriba, c'était le moment où Israël s'est révolté contre Dieu. Et c'est peut-être quelquefois justement dans ces temps de révolte où nous ne comprenons plus rien à rien, que nous disons « Dieu m'a laissé, Dieu m'aime pas ou Dieu m'a abandonné », eh bien c'est près de ces eaux que nous avons été prouvés pour faire confiance à Dieu et non pas nous révolter contre lui, lui faire foi, et c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, et vous souviendrez, qu'il faut se laisser porter par le Seigneur, sans nous débattre. Alors à ce moment-là, c'est lui qui va nous donner, qui va nous faire entrer dans la vraie liberté, et ce que je pourrais appeler le vrai bonheur extérieur, et surtout le bonheur intérieur. On va prier maintenant, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, et te remercier, Seigneur, parce que nous te remercierons jamais assez lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous ouvrons l'Évangile, que nous parlons de Jésus, parce que c'est une voie qui nous est peut-être inconnue pour certains, mais qui va devenir la voie la plus connue à nos cœurs, à nos âmes et à nos esprits. Nous voulons croire, en effet, Seigneur, que tu parles encore, tu te révèles. Alors les uns et les autres, Seigneur, c'est un message de grâce que nous avons voulu apporter ce soir. À tous ceux, Seigneur, qui sont découragés, tous ceux qui ont perdu le moral, tous ceux qui ne savent plus, en effet, à qui se vouer, qui ne savent plus, Seigneur, quels moyens utiliser pour sortir de cette misère. Misère peut-être, elle peut être économique, elle peut être professionnelle, elle relève peut-être de l'injustice et de la méchanceté des hommes. Cette misère, elle peut être au plus profond, Seigneur, de notre famille, à travers le rejet ou le mépris. Elle peut être également, Seigneur, en effet sur le plan moral, parce que nous sommes là, eh bien, liés par des chaînes qui nous font soupirer après la délivrance. Seigneur, peu importe. Peu importe ce qu'il y a dans la corbeille, tu nous réponds, eh bien, j'ai déchargé son épaule de la corbeille, et ses mains ont lâché, en effet, le fardeau. Seigneur, maintenant que nous puissions comprendre, les uns et les autres, dans une réflexion personnelle, nous n'avons pas besoin de le crier sur les toits, mais dans notre vie qui nous est propre, au plus profond de notre conscience, et de ce moment, Seigneur, de recueillement dans la prière, nous puissions te dire, eh bien, Seigneur, j'ai compris, c'est vers toi que je me tourne, c'est vers toi que je veux t'apporter, Seigneur, par, tout simplement, eh bien, mes cris de détresse, ce problème en sachant, Seigneur, que même si tu es invisible pour moi, je sais que tu es là, puisque tu es venu pour nous consoler, tu es venu pour nous guérir, tu es venu pour nous pardonner. Alors, si je crois, eh bien Dieu est là. Merci Seigneur, merci mon Sauveur. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.